Bienvenue dans Bon Sang, le podcast qui questionne la féminité. Je suis Chloé et aujourd'hui c'est Marine qui m'a fait le plaisir d'échanger avec moi sur le sujet. Avec Marine, on s'est rencontrés en prépa littéraire, vous allez voir, ça s'entend parce qu'on mentionne énormément d'auteurs plus ou moins classiques. Rassurez-vous, dans cet épisode, on a surtout parlé d'amour, de Gossip Girl et de poils. Le poil étant le thème récurrent des épisodes de Bon Sang, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais voilà, je vous invite à écouter les autres épisodes pour voir un petit peu les différentes facettes du poil finalement. Si à la fin de cet épisode, vous vous dites que vous venez de kiffer ce moment, passez avec nous, soutenez le podcast en vous abonnant et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts, et puis en le partageant à vos proches. C'est ce qui m'aide, moi, à faire connaître le Clo-Clo Club. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, où je partage régulièrement mes découvertes culturelles. Et sur ce, je vous laisse avec Marine. Bonne écoute. Hello Marine.
Hello.
Je suis contente de t'accueillir sur Bon Sang. Est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, à savoir, je pense, beaucoup de monde, finalement.
je ne suis pas encore une célébrité. Donc, je m'appelle Marine, j'ai bientôt 27 ans. On se connaît de la classe prépa.
Ouais, ça commence à faire maintenant.
Ça commence à faire. Et je fais de la sociologie maintenant. J'essaye, avec des difficultés, d'avoir un financement pour une thèse. Et je travaille sur l'apprentissage de l'amour aux adolescents par les objets culturels, donc les films, les séries, la musique, les livres, tout ça,
ouais.
D'un côté, et de l'autre côté, par l'institution scolaire. Donc, non pas qu'il y ait des cours d'éducation amoureuse, mais plutôt ce qui va être dit
en cours
de façon implicite, même les impensés, en fait, mm-hmm. En cours de français, notamment quand on étudie les grandes romances ou les liaisons dangereuses et tout ça, qu'est-ce qui va être dit dessus. Et aussi, ce qui touche à la biologie, dans le fameux cours qu'on a tous eu sur la reproduction humaine.
Ouais, le cours des capotes.
Exactement.
C'est super intéressant comme sujet. Mais du coup, ouais, t'es déjà assez familière finalement avec le thème de ce podcast, à savoir questionner le genre, questionner les notions de féminité, les questions du corps aussi, tout ça. Et ce qui va m'amener tout de suite à ma toute première question. Ça veut dire quoi pour toi être une femme ?
Alors déjà, instantanément, j'ai eu l'horrible chanson hyper sexiste de Sardou dans la tête, parce que je bosse dessus pour dénoncer justement...
Donc ça commence. Ah, on l'avait pas encore fait celle-là. C'est parfait.
Mais à part ça, je me suis posé la question en fait vers 2017, j'ai eu dans mon entourage pas mal de personnes qui se sont questionnées sur leur genre, qui ont fait des coming out trans ou non binaires.
Mm-hmm.
Du coup, ça a forcément déclenché une réflexion en moi aussi. Et pendant un petit moment, je me suis dit en fait, je suis anxiogenre. Alors, anxiogenre. C'est le fait
que... Qui a peur d'avoir un genre ?
Qu'en fait, non, c'est qu'en fait, quand tu essayes de réfléchir pour savoir vraiment au plus profond de toi,
ouais.
À quoi tu t'identifies, ça te fait des crises d'angoisse. Donc en fait, c'est un peu... Je ne sais pas. Donc pendant un moment, c'était ça. Mais c'est plutôt que j'étais angoissée de tout dans la vie à ce moment-là. Et maintenant que j'ai un peu de recul... Je pense effectivement être à l'aise avec le fait d'être une femme. Et je pense que ça joue aussi beaucoup avec le fait d'être alors sexisée, ce qui est le penchant au niveau du genre, comme on dit pour les personnes racisées.
Mm-hmm.
Et donc c'est un peu bizarre parce que c'est le fait qu'en fait c'est d'autres personnes qui apposent sur toi leur image de la féminité ou quand ils te voient, ils te voient comme une femme et donc toi tu finis par l'intégrer. Et par te revendiquer femme.
T'approprier ces critères finalement.
C'est ça. Donc déjà, il faut faire un peu la paix avec tout ça, pour moi en tout cas, parce que je me suis dit d'accord, donc finalement, ce truc hyper intime de qui tu es et comment tu te définis, c'est défini par le regard de gens dans la rue, en plus des regards que t'as pas forcément envie d'avoir sur toi.
Mm-hmm.
Donc c'était chiant. J'étais pas à l'aise avec ça. Mais par tout ce qui est notamment, alors sans tomber dans des extrémités essentialistes, hyper transphobes et tout, mais c'est notamment par tout ce qui est magie et tout ce qui est faire la paix avec le féminin en soi, son corps et tout, que j'arrive à faire un peu la paix avec ce concept de féminité.
Ok. Est-ce que le fait que t'aies eu beaucoup d'amis justement qui ont fait des coming out divers et variés, ça t'a aussi pas fait dans une certaine mesure rejeter finalement ces codes de féminité que tu voyais plus du tout appliqués autour de toi,
par mimétisme aussi inconscient, ou juste justement face à cette remise en question, de se dire si eux ils remettent ça en question, moi j'ai pas non plus envie de me sentir femme à ce moment-là.
Ouais, bah je pense qu'il y a trois points. Il y a effectivement celui-là, le fait que j'ai toujours, depuis de nombreuses années, évolué dans des milieux très militants, très féministes et queer, où effectivement il y a peu l'image cliché de la féminité, on va dire, mm-hmm. avec laquelle aussi je trouve qu'il faut faire la paix, et que finalement tu peux être une nana entièrement en rose avec des talons qui va chez l'esthéticienne et être hyper badass et loin d'être bête en fait. Mais ça, j'ai mis du temps à le dire. Et les deux autres points, c'est que quand j'étais ado, j'ai eu complètement cette phase de not like other girls. En plus, à ce moment-là, je sortais avec une fille.
Ok.
Et donc, même si je mettais quand même des robes ou des trucs comme ça, je me voyais beaucoup plus trash et subversive que je ne l'étais en réalité.
C'était ton abri de la vigne intérieure.
Exactement, au fin fond de mes deux sèvres. Et oui, du coup, je me disais, non, moi, j'aime pas les trucs de filles. De toute façon, je lis Shakespeare et je suis très torturée. Et la féminité, c'est de la merde, quoi. C'est pour les filles bêtes, en fait, pour les pétasses, tu vois. Mm. Alors qu'il n'y a rien de mal à être une pétasse, finalement. Et après, il y a aussi tout un truc qui est que moi, j'ai toujours, du fait de la génétique, de maladies, j'ai toujours déjà été plutôt en surpoids et eu un problème d'hyperpilosité.
Ok. Enfin, au niveau en fait, de la thyroïde ou...
Non, ça s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques.
Ah, ok, comme ça. Ouais, je vois très bien.
Et en fait, je dis un problème, alors que au niveau de la santé, ça ne me pose aucun problème, les poils. Genre, il n'y a aucun souci, tu vois.
Ouais, c'est le regard des autres.
Mais c'est un problème pour les autres. Et ce qui fait que la première fois que ma mère m'a épilée à la cire, j'avais 9 ans.
C'était
horrible.
T'as été diagnostiquée quand ?
J'ai eu un début de diagnostic à 18 ans et qui traîne depuis. Enfin, je suis même pas traitée aujourd'hui à bientôt 27 ans.
Du coup, on traitait tes symptômes bien avant de m'imposer.
Ah, bien sûr, bien sûr. Et surtout, finalement, parce qu'il y a des symptômes physiologiques qui, eux, peuvent être graves, comme une résistance à l'insuline ou... Bon. Qui pour le coup sont des problèmes.
Puis des douleurs aussi, tout simplement. Hein,
Moi j'ai la chance, j'en ai pas
ça
trop.
Va ok.
Mais par contre, tout ce qui touche à l'apparence, au poids et au poil, et à ce qui n'est pas très féminin, puisqu'une femme doit être mince et toute lisse, alors ça a été un problème pour tout mon entourage et donc pour moi très très tôt. Et ce qui fait que aussi c'était compliqué la féminité, parce que, je voyais toutes ces filles. Grande, mince, avec aucun poil, machin. Et moi, j'étais là avec mon short de bain de garçon pour essayer de cacher mes poils. Là, non, je ne ressemble pas du tout à cette sirène.
Que tu peux voir dans les magazines ou même autour de toi, dans ton entourage.
Exactement. Et pendant hyper longtemps, je me suis épilée de la tête aux pieds avec des produits chimiques de merde qui coûtent super cher et tout. Et genre, quand j'étais au lycée, j'étais incapable, mais vraiment incapable d'aller à une soirée sans être intégralement épilée, au niveau de la chatte et tout. Alors que même à une époque où
t'avais pas forcément relation
clairement, non, j'allais pas et bon, ça n'allait rien se passer de ce côté-là. Mais je pouvais pas me sentir pumped up, fraîche pour aller en soirée en sachant que j'avais des poils quelque part, quoi.
En même temps, là, ce que tu m'as dit, enfin, je reste un peu là-dessus, mais que ta mère t'ait épilée dès l'âge de 9 ans, ça me paraît surréaliste comme image. Ouais. Quelle a été, du coup, ta relation avec ta mère par rapport à ça, à ta construction de ta féminité ?
Elle, pour le coup, elle adhère tout à fait à la vision un peu normée de la féminité, bien que elle ait des... J'aime pas dire problème, parce que c'est pas ça le problème, mais elle a des problèmes de poids.
Bien qu'elle ne rentre pas dans cette norme,
voilà,
en fait.
Voilà, exactement. Mais oui, c'est toujours maquillé, même pour rester à la maison, si on sort, des petits talons, tout ça.
Ce que je me dis, c'est une pression énorme, enfin, tu vois, de commencer dès tes 9 ans à t'intégrer le fait que tes poils, il faut pas les avoir. Enfin, c'est très violent.
Ouais, même quand j'étais petite, et après plus tard, mais j'ai fini par me rebeller, donc ça s'est arrêté. Dès qu'on allait à la plage ou à la piscine ou quoi, mon père, il allait me dire « Ah, ça va King Kong, oh, mon petit Yeti, tout ça. » Et moi, j'étais en PLS, quoi. J'ai eu un revirement total au moment où j'ai accepté cette féminité, donc grâce au féminisme.
Et à quel âge à peu près ? Parce que j'ai l'impression que du coup ça arrivait super tard.
Ah oui, bah même quand on se connaissait, je m'effilais toujours complètement. Donc en 2000, bah 2000, ouais, 2017, 2000, attends, je réfléchis. La dernière fois que je me suis épilée, c'était début 2018, pour une grosse soirée. On ne change pas les
Toujours les la motivation. Toujours pour la même raison.
Et donc là, ouais, depuis début 2018, je ne me suis absolument pas épilée. À la fois, c'est compliqué avec des regards. Il y a des moments où je me dis, bon là, je sais très bien qu'il faut que je mette une combi pantalon ou quoi, que j'ai pas l'énergie
Oui, parce
de
qu'en
me
plus, on
battre
n'a
avec
pas
ça.
spécifié, mais t'es brune. Donc,
Ah oui, ça se voit.
Ah, bah, ça se voit, mon
Ah, ça
Dieu.
se voit, oui. Et en même temps, c'est quand même une libération de pouvoir dire fuck it, genre. Ça coûte un fric monstrueux. Il
Ouais, c'est
paraît
très cher.
que dans sa. J'ai lu un truc. Dans sa vie, une femme dépense en moyenne 15 000 euros pour s'épiler. Là, moi, j'ai autre chose à faire
Avec 15 000
avec
euros.
ces 15 000 euros que je n'ai pas, exactement. Ça m'a vraiment pourri la vie. Il y a un moment où. Parce que. Donc, bien sûr, il y a les poils sur les jambes, mais si seulement ça s'arrêtait là. Moi, j'en ai vraiment partout, tu vois, dans le cou et tout, c'est terrible. Ça, c'est mon complexe
Niveau du
maximum, quoi.
visage,
Ouais.
etc.
Et il y a une époque où c'était la première chose que je faisais tous les matins en me levant, la dernière chose que je faisais en me couchant et tout.
C'est une charge mentale énorme, en
Ah
fait.
oui, ah oui. Et donc oui, c'est vraiment une libération de plus trop faire attention. Le visage, c'est dur encore. Mais j'y viens, j'y viens.
Puis t'as le regard, là tu parlais du regard de tes proches, mais t'as aussi tout le regard des gens que tu ne connais pas, que tu
Ouais,
rencontres bah, dans
c'est
la
même ça
rue.
parfois le plus dur. J'ai eu, là, quand j'étais sur la Côte d'Azur, j'ai eu des mamies qui étaient scandalisées, mais pas à me crier dessus non plus, au bout d'un moment, tu repères, tu vois.
Ouais, tu
Tu
les
vois le
oublies.
regard, tu vois le oh! avec la main devant la bouche, tu dis, ah, celui-là, il était pour moi. Mais il y a aussi presque une petite fierté maintenant, parce que ça fait quelques années, de se dire, c'est peut-être la première fois qu'elle voit des poils sur une femme de sa vie, tu
Autre que sur son propre
vois. Ouais,
corps,
c'est ça.
et
Si ça se
encore
trouve,
quand
elle a
même.
70 ans, elle a jamais vu des poils sur une femme, alors que c'est naturel. Du coup, je cherchais un peu des. Que moi, je suis une grande intello, donc je cherche toujours des livres sur tout ce qui m'arrive. Et je cherchais des livres sur le poil féminin. Il y en a un qui est sorti là cet été qui a l'air super, que j'ai acheté mais pas encore lu. Ça s'appelle Parlons poil, le corps des femmes sous contrôle. Et c'est de Juliette Lenrouilly et Léa Taïeb.
C'est vrai que le rapport au poil, il change beaucoup, le fait que tu vois, il y a des ouvrages dessus, et puis même d'expérience personnelle. Quand j'étais petite et que j'allais en vacances chez mes grands-parents, voilà, petite anecdote, il y avait une personne qui habitait leur village, une femme en l'occurrence, qui avait de très longs cheveux, bien noirs, vraiment super longs jusqu'au bas des fesses, et des poils sous les bras. Et
Ouais.
moi, petite, c'était l'une des premières fois que je voyais une femme avec des poils sous les bras.
Bah ouais.
Et en fait, je pouvais la regarder des heures, je trouvais ça fascinant. Mais il y avait une forme d'incompréhension, tu sais, de pas trop savoir ce que ça faisait là. Et en même temps, j'étais pas. C'est rigolo, enfin, elle a quand même deux touffes noires sous les bras et tout. Il y avait un truc, pour un enfant, en tout cas, c'était un regard.
Fascinant un
Ouais,
peu,
un petit peu. Elle est un peu magique, la dame, mais je sais
ouais.
pas si c'est gentil ou méchant, tu vois, dans ma
Ouais.
façon de le percevoir.
T'étais troublée, quoi.
C'est ça. Et aujourd'hui, je trouve ça génial de voir bah, des. Alors, je vais dire des petites meufs, c'est pas du tout négatif chez moi. Des petites meufs sur Insta qui se prennent en photo ou font des stories, effectivement, elles ont des poils sous les bras et en fait, enfin, c'est même pas une question. Et
Ouais.
elles le font et oui, elles doivent certainement se prendre des commentaires là-dessus, mais en fait, elles continuent et elles s'en fichent. Et ouais, passer de ce côté de voir une femme dans un village paumé dans le sud de la France avec des poils sous les bras à aujourd'hui plein de nanas entre. Même dès 18 ans et 30 ans, avoir des poils sous les bras et s'assumer en photo, enfin, je trouve ça incroyable le chemin parcouru en une
C'est
dizaine
sûr.
d'années.
Non, ça fait vraiment du bien à voir. Tu te sens moins comme une anomalie aussi, tu vois.
Et comment est-ce que tu t'es réconciliée du coup avec ta féminité? Parce que là, on t'en parle comme un rapport très conflictuel,
Ouais.
comme pour beaucoup hein, de femmes, très clairement. Qu'est-ce qui, chez toi, t'a permis de te réapproprier ton corps? Tu parlais un petit peu tout à l'heure de magie, d'apprendre à en fait, faire du développement personnel, ce genre de choses. Ça a été quoi, toi, un peu tes éléments déclencheurs pour te dire, ok, ça va et je me sens bien maintenant comme je suis?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le fait. Bah, je parlais du fait d'être définie comme femme par le regard des autres. Et en fait, ce qui m'a aidé à sortir de cette vision-là, c'est de me dire, mais par cette définition, tu peux... Alors, je dis pas que seules les femmes peuvent être féministes, mais tu peux prendre part à tout un combat, toute une histoire, en fait, de lutte. Et en même temps, c'est rageant, bien sûr, mais c'est aussi hyper puissant.
Ouais.
Tu vois ? Et je me... Et c'est là, quand je me suis dit, mais est-ce que je me sens femme ? Je dis, mais en fait, oui, parce que quand je lis tous ces trucs, même, je sais pas, des sorcières de Salem ou des féministes de 70
tu
ou quoi.
Tu t'identifies,
je dis, ouais, je me sens concernée, en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il est question de moi, d'une certaine façon. Après, il y a aussi le côté, ouais, appropriation de son corps par le fait de se laisser pousser les poils, de se faire des tatouages. Tu vois, parce que pendant longtemps, le corps, pour moi, c'était un truc à corriger. Parce que soit il fallait le corriger esthétiquement,
pour
genre
perdre
des kilos et enlever des poils, soit il fallait le corriger médicalement parce que j'avais des soucis de santé. Et je me disais, bon, heureusement que je suis gentille, drôle et intelligente, comme ça je peux essayer de faire oublier un petit peu cette carcasse horrible, tu vois.
C'est une vraie dissociation entre ta tête et ton corps qu'on a toutes, je pense, eu à un moment. Enfin, ça a été très quand même spécifique aux femmes là-dessus.
Ouais. Et en lisant donc des trucs sur... la spiritualité magique, un peu, les sorcières, tout ça, que j'ai souvent lu des choses sur, justement, cette dichotomie, mais qui remonte à Platon, du corps et de l'esprit, et qui disait, mais en fait, ça, c'est vraiment hyper européen, et ça ne repose sur rien. Enfin, en fait, ton esprit, il peut pas vivre sans ton corps, et inversement, les deux fonctionnent forcément ensemble. En fait, je peux pas me sentir bien si je me dis... Ouh, je suis quelqu'un de génial dans ma tête ou dans mon âme ou quoi, mais...
que je déteste mon
image. Mais je déteste mon
image
et mon corps, alors qu'en fait, je sais pas si c'est avec ton corps que tu vis, que tu désires, que même que tu marches.
Que ton cerveau fonctionne aussi,
oui,
tout simplement.
Oui, voilà.
Pour avoir
même
des
que
idées.
Tu ressens, genre, la gourmandise ou le soleil sur ta peau ou je sais pas, plein de trucs. Et en fait, sans ton corps, t'as rien. Et donc voilà, c'est en lisant des trucs là-dessus que je me suis dit, mais oui, il faut que j'arrête d'être en guerre contre moi-même, parce qu'en fait, ça ne me fait aucun bien. Et de toute façon, c'est une guerre perdue d'avance. Enfin, moi, il y a des histoires de génétique ou quoi. Bon, je ferai jamais un 36 de ma vie. Genre, c'est fini, quoi. Ce n'est pas possible.
Ce que tu disais, hein, c'est une norme qu'on nous montre.
Ouais.
Mais en fait, une norme basée sur des critères totalement arbitraires.
Oui, quand tu vois.
Que c'est
en
pas
plus...
vraiment une norme quand tu vois la norme des Françaises, quand on fait. T'as des études et tout clair. Qui sortent. En mon cas, à l'heure actuelle, je fais partie de la norme cliché. Mais du coup, quand je voyais les normes sortir, disant la vraie Française, elle fait du 42, et j'ai.
Ouais.
Mais du coup, je suis pas non plus dans cette norme-là, donc s'il vous plaît, est-ce qu'on peut arrêter de juste dire
qu'on peut juste
la femme
la
est une norme? C'est ça! Parce que vraiment, en fait, dans tous les cas, t'exclus toujours quelqu'un, donc stop! En fait, venez, on arrête de se comparer.
Et pour ça, je trouve qu'avoir des. Notamment suivre sur les réseaux sociaux des femmes qui sont en dehors de cette image qui n'existe pas, ça fait trop de bien. Genre moi j'adore Barbara Butch.
Ouais.
Pour tout, à la fois pour ce qu'elle fait en tant que DJ et même pour tout son militantisme. Et voilà, et suivre plein de nanas comme ça qui sont trop inspirantes, trop stylées, mais qui feraient a priori pas la couverture de Elle ou de Cosmo quoi.
En tout cas, pas en 2021, alors que il y a quelques siècles, par exemple, ça aurait été des canons de beauté, parce qu'on avait les femmes en chair,
plus.
Et ceci, et cela. Enfin, c'est tellement
plus.
Variable comme norme, c'est un simple de... norme arbitraire, en fait. C'est très récent. Et même là, on voit que ça change. Enfin, le modèle actuel, c'est
Kim Kardashian.
Exactement. J'allais dire Kendall Jenner, on est sur la même vibe.
Alors que c'était plutôt Kate Moss il y a 20 ans, 15
c'était
ans.
C'était Kate
oui.
Moss. Encore avant, enfin, on était sur à nouveau des femmes plantureuses, mais pas de la même façon.
Mm-hmm.
Ça arrête pas de changer, en fait. Enfin, tu ne seras jamais dans cette norme-là, parce que
non.
Dans tous les cas, même au moment où tu y es, ce ne sera plus la norme. Donc,
Ouais, puis il y a aussi cette idée que... Est-ce que ce n'est pas une distraction, tu vois, pour nous empêcher de nous épanouir, pour nous empêcher de nous battre aussi contre les inégalités. Voilà, si tu passes ta vie à te battre contre toi-même et contre ton corps, à quel moment tu te bats contre la merde dans la société ?
Du coup, tu me parles beaucoup de ton rapport au corps aussi. Et tu m'as dit tout à l'heure que tu étais sortie effectivement avec une fille au lycée.
Ouais.
Aujourd'hui, tu as un copain.
Ouais.
Voilà, t'as eu d'autres partenaires entre-temps, et du coup, ça a été un peu quoi ton cheminement? Ou alors, est-ce que t'as constaté un changement de toi, ton regard, par rapport au regard que la personne en face de toi avait sur ton corps aussi, dans la sphère privée?
Bah du coup, pendant vraiment très longtemps, il y avait ce truc de « Oh là là, il faut être parfaite au cas où une occasion arrive et... » Ouais, c'est ça, une quête de la perfection. Tu n'es pas un corps, quoi, tu es une image. Ouais. Attends, j'essaye de faire le calcul. Oui, je pense jusqu'à 20 ans, 21... tout en étant féministe et tout, pas peur des contradictions, tu vois.
Non, mais attends, ça est tellement compliqué de se déconstruire et de se reconstruire ouais. En fonction de ce qu'on est vraiment, ça met du temps.
Oui, c'est plus facile de commencer à dire aux autres, mais vas-y, reste comme t'es, que de te dire à toi, bon, un peu d'indulgence avec soi-même, ça fait du bien. Mmh. Ouais, quand j'ai arrêté de m'épiler, parce que c'est pas mal passé par là quand même, la première personne avec qui j'ai eu des rapports intimes, c'était une femme, et très très militante, très féministe aussi, donc il y a eu, j'allais dire, aucun problème, même aucune réaction, enfin, et en plus, on en parlait d'un point de vue théorique,
okay, donc
des poils ou quoi,
question.
Donc de toute façon, elle était informée à l'avance, on va dire, et il n'y aurait pas eu de... Enfin, on était sur la même longueur d'onde, quoi. Et après, avec mon mec actuel, j'avais... Alors au début, c'était pas censé... lui, il devait se barrer un an à l'étranger... Moi, je sortais d'une relation horrible et donc on était en mode « Ok, de toute façon, là, on a 2 mois d'été. Après, on se voit peut-être plus jamais. Soyons en détente. » Et puis voilà, on se rend service.
La détente, elle a duré longtemps.
C'est ça, le service rendu continue, quoi. Et donc, du coup, là, je crois quand même que les premières semaines... Ah ouais, direct. Je me rends compte moi-même. Donc non, là, j'étais pas épilée, mais j'étais pas à l'aise, hein. Au début, par exemple, je voulais toujours être dans le noir, tu vois, ou sous la couette.
Alors que lui, t'avais pas fait de réflexion ou quoi que ce soit.
Ah non.
Ouais, c'était toi tout seul.
Non, c'était moi qui me mettais le truc. Je me disais, bon, j'ai pas besoin d'être parfaite parce que je cherche pas à ce qu'il tombe amoureux de moi, finalement. Mais quand même, il faut respecter le regard de l'homme sur soi, tu vois.
Alors que t'oublies qu'il y a le toucher et que des poils, ça se sent. Non, mais ça me fait toujours rire. On va se mettre dans le noir. Je suis genre, oui, mais en fait, le gars, il a des mains, toi aussi. Enfin, il y a un moment, tu te rends compte de certaines choses quand même.
Ouais. Non, mais la logique ne fait pas trop partie de ces réflexions. Hein. Et donc, voilà. Et donc, au début, c'était vraiment, je voulais être sous la couette, dans le noir, alors que lui, c'est pas du tout ce qui lui plaît, on va dire. Mm-hmm. Et donc, à force de me dire, oh, mais t'es sûre, franchement...
Faisons ça en extérieur, en plein soleil.
Mais limite, tu vois. Que je me suis détendue.
Tu t'es un peu plus lâchée sur ton corps, en fait.
Ouais. Mais toujours aussi, parce que j'avais cette idée de... De toute façon, le mec, il se casse, et je m'en fous. Bon.
Il ne s'est pas cassé, update. Update, ils sont toujours ensemble.
Ça fait 3 ans. Mais du coup, la barrière était déjà tombée, en fait.
Oui, il n'y avait pas la pression. Et comme tu dis, en fait, quand tu voulais être, entre guillemets, parfaite, c'était pour que l'autre tombe amoureux de toi, comme si
Exactement.
C'était un moyen. Alors qu'en fait, on le sait très bien, quand la personne est amoureuse de toi, et même toi, quand t'es amoureux de quelqu'un, que la personne est la gastro ou non. T'arrives à la trouver belle et
bah,
dire...
bien sûr.
Bah oui, bah, bien sûr, enfin, on
et
est humain,
si,
quoi.
Et puis si tu dis, ouh, je peux t'aimer pour toute ma vie... Par contre, si je vois un poil, c'est fini, quoi. Ce n'est pas... Il faut sortir de cette relation, les amis. Ce n'est pas sain. J'ai vécu une relation abusive avec un mec. Ça s'est fini. Et quand ça s'est fini, j'étais au fond du seau, mais encore en dessous, tu vois. Vraiment, giga dépression, stress post-traumatique.
Oula, ok, ouais.
La teuf, quoi. Donc, je passais globalement mes journées... en pyjama à regarder Gossip Girl. on fait ce qu'on peut. Et en fait, au bout d'un moment, grâce aussi pas mal à des amis hein, qui m'ont ouvert les yeux et à des lectures et tout, je me suis rendu compte que cette relation, elle avait été abusive. Parce qu'au début, je me rendais pas compte. Tu vois.
Oui, puis quand t'es dedans, tu le vois pas.
Bien sûr. Et donc, je me suis beaucoup renseignée sur ce type de relation. Tout en continuant à regarder Gossip Girl à côté... Et petit à petit, l'un influait l'autre et je me disais, mais attends, mais là, ce qui se passe dans la série, mais c'est hyper toxique. Mais ça va pas du tout.
Bah, il y a quand même des viols, quoi, dans la série.
Ah oui, puis des manipulations, du chantage, enfin, la totale, quoi. Et donc, je finissais par regarder Gossip Girl complètement avec cette lentille féministe. Tant et si bien que c'est le sujet de mon mémoire de M2, qui est donc la représentation des relations abusives dans une série à destination des adolescentes. Et donc, la série, c'est Gossip Girl. Et j'ai fait des questionnaires avec 40 ados et des entretiens plus suivis avec deux.
Ouais.
Donc, que des filles, entre 14 et 20 ans, fans de Gossip Girl. Et en fait, la question, c'était, qu'est-ce que vous pensez de cette relation? Comment... Donc, il y avait des extraits vidéo, des moments forts de la relation, donc vraiment des trucs pas glorieux, quoi. Et aussi des trucs joyeux, pour faire la comparaison. Et donc, à chaque fois, je disais, qu'est-ce que vous ressentez face à cette scène? Comment vous réagiriez si vous étiez Blair? Comment vous réagiriez si Blair était votre meilleure amie et qu'elle venait vous raconter ce qui lui est arrivé? Et c'était ouf, c'était trop bien, j'ai trop aimé faire ça. J'ai eu les félicitations.
Puis sorti de leur contexte, les extraits, t'as dû avoir des réactions justement très différentes de personnes qui regardent ça dans une série où t'as une scène avant, une scène après, c'est un peu noyé dans le reste,
ouais.
Même si ça reste un temps fort. Alors que quand tu le sors tout seul hors contexte, c'est souvent là
tu où... Tu te rends compte de trucs, mais pas forcément, tu vois. J'ai eu trois types d'ados. En gros, il y a celles qui adhèrent complètement, donc qui sont en mode... moi, je rêve de sortir avec un mec comme Chuck, c'est ma vie, ils sont trop mignons, j'adore. Voilà, qui sont complètement dans le truc. Et franchement, à la fois, c'est horrible, à la fois, j'aurais pu dire ça à l'époque.
Je
donc,
pense que, ouais, sans problème.
Il y a celles, une toute petite minorité, mais je pensais même pas les avoir, donc j'étais quand même hyper contente parce qu'elles sont très jeunes, qui sont déjà féministes, qui, par exemple, répondaient en inclusif. Parce que j'avais une question, oui, alors, spoiler pour Gossip Girl.
Je pense que tu peux spoiler à ce stade.
C'était en 2012, donc. J'avais une question qui était, à la fin de la série, Blair et Chuck se marient et ont un petit garçon. Est-ce que pour vous, c'est une fin heureuse? Et il y en a quelques-unes, du genre, bon, 3 hein, sur 40, qui m'ont répondu, je ne pense pas que le mariage soit nécessaire pour une fin heureuse. Non, je pense que... Blair aurait dû rester indépendante, ou des trucs comme ça.
Et en du plus, coup, Blair qui a un garçon, enfin, quand tu vois le personnage de Chuck, ça en dit long aussi sur la façon dont les scénaristes ont pensé leur relation. Non pas qu'avoir un garçon, ce soit mal, loin de là, mais le personnage de Chuck, il construit quand même tout un empire, il est manipulateur, enfin, c'est le personnage le plus problématique de toute la série, en tant que tel, mm-hmm. la façon dont il a été écrit. Et le fait de la faire se retrouver coincée entre deux mecs, enfin, ça en dit long, je trouve.
C'est mais... clair. Et il y avait un truc qui est vraiment le résultat de ma recherche, en fait, qui est qu'il y a beaucoup d'adolescentes qui, quand il est question d'elles-mêmes, de comment elles réagiraient dans la situation, pardonnent très vite, trouvent des excuses, voilà.
Et quand c'est
leur meilleure amie, sortent les dents, tu vois. Et donc, il y a vraiment ce truc de « moi, je pourrais accepter qu'on me fasse du mal, je pourrais pardonner. Par contre, si tu touches à ma meilleure amie, je t'éclate. » Tu vois ? Alors que c'est les mêmes comportements. Et en gros, les conclusions très rapides que j'en ai tirées, quand t'es adolescente, il y a un gros accent qui est mis sur toutes tes relations, donc amicales et romantiques, et que c'est un peu ce qui définit ta place dans la société adolescente. Avec qui t'es amie, est-ce que t'as des amis ou pas, déjà ? Et avec qui tu sors, est-ce que t'as un copain ou pas, est-ce qu'il est stylé ou pas.
Puis c'était un peu l'objectif aussi ultime, c'était absolument avoir quelqu'un.
Et donc, en fait, les autres, finalement, tes relations, tu les privilégies par rapport à ton propre bien-être. Parce que c'est plus important d'être aimé que d'être respecté, en fait.
Oui, et en partant du principe que tu peux pas être les deux.
Ouais, oui.
C'est souvent.
Ah, ce serait trop simple. Et donc, partant de là, j'ai créé ce sujet de thèse parce qu'il y a pas mal de trucs sur l'éducation sexuelle qui se font, et c'est très bien. Mais en fait, il n'y a pas que ça, finalement. Parce que évidemment, il y a un énorme problème avec les violences sexuelles, le non-consentement et tout. Mais les violences psychologiques et ce à quoi on est prêt par amour, entre guillemets, ça peut être dévastateur, surtout, franchement, à tous les âges, mais j'ai envie de dire surtout à cet âge-là où on n'est pas encore solide sur ses deux pieds, quoi.
Et même dans les années qui suivent, où tu le vois en termes de témoignages, je pense c'est pareil pour toi au niveau de nos proches, mais ouais, autour de la vingtaine, c'est le moment où t'as des premières relations sérieuses pour beaucoup, parce qu'au lycée, voilà, c'est soit c'est des gens qui restent ensemble depuis le lycée, soit tu commences à avoir des vraies relations en tant que telle entre adultes vers la vingtaine.
Ouais.
Et c'est là que les schémas toxiques que tu as intégrés ressortent et s'appliquent.
Complètement. Et donc moi, mon projet, en fait, j'ai un projet qui n'est pas que de la recherche. J'aimerais vraiment qu'il y ait une application concrète, tu vois, et alors dans un monde idéal dans lequel on ne vit pas, carrément des cours d'éducation sentimentale comme il y a des cours d'éducation sexuelle. Mm-hmm. Enfin, à noter que normalement, il y a 3 cours d'éducation sexuelle obligatoires par an au lycée.
Oui, non,
je ne connais personne
couleur.
Qui en a eu un seul. Hein.
Ça,
donc,
et,
c'est mal barré.
Et puis, même sans... Enfin, effectivement, ça, c'est dans un monde idéal, mais juste déjà dans le monde actuel où ce serait possible, ce que tu disais en cours de français ou autre, quand on a des cas voilà, de comportement... parce que je pense que ça peut être vu comme très moralisateur, mais simplement faire de l'éducation.
Bien sûr.
Et d'expliquer, bah voilà, telle personne, là, est en train de manipuler telle autre, et donc c'est en ça qu'il n'a pas son consentement, mais que ça passe quand même, et ainsi de suite. Parce que tu citais les liaisons dangereuses tout à l'heure.
Ouais.
Effectivement, notamment à cause de, bah, du film qui avait été fait, mais le nombre d'ados qui voyaient ça comme... un modèle, un exemple de assez sexy de faire comme ça, alors qu'en fait pas du tout, du tout, du tout. Quand tu lis le texte, ce qui se passe, c'est
un viol,
un viol
en fait. Ouais.
De l'autre côté, c'est une manipulation entre deux personnes très toxiques. Enfin, quand tu le sais et que tu lis l'œuvre, c'est d'autant plus intéressant, qui plus est.
Mais
c'est vrai
qu'on
n'a pas la
présente comme une histoire d'amour.
Exactement.
C'est complètement. Bah là, j'ai. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de lycéens qui lisent que c'est quand même un pavé, mais l'été dernier, j'ai lu Belle du Seigneur. Ce que j'avais jamais lu, et que quand je faisais des entretiens, notamment avec des profs de français, il y en a plusieurs qui me disaient que c'était leur roman d'amour préféré. Donc, tu l'as lu parce que je vois ta tête ?
Alors, je ne l'ai pas lu, mais ça me paraît bizarre pour
ça. Exactement, ouais. Et donc je me suis dit, bon, je vais le lire, et puis, un petit truc romantique pour l'été, ça va être super sympa. Mais je m'arrachais les cheveux. Mais je lisais à côté de mon mec, il n'en pouvait plus toutes les 5 minutes, je disais oh, « Non mais regarde cet extrait-là, non mais c'est horrible !»« Non mais sérieusement !» et tout. Certains disent que c'est fait exprès. Et que... c'est Leonard Cohen ? Non, Leonard Cohen c'est un autre. Albert Cohen. C'est Albert Cohen, il aurait fait ça justement, ironiquement, pour dire « Voilà votre idéal romantique, voilà ce qui fait rêver un peu tout le monde.
Ouais, » alors,
alors
si
que dans les faits...
cynique et autre,
tu vois,
enfin,
alors que dans les faits, ça...
que tu peux identifier comme telle, comme
bien
critique,
sûr.
Si tu n'identifies pas la critique,
mais je trouve
un problème.
Que... Bah voilà, en fait, ce que je trouve bizarre, parce que si tu le lis comme cynique, c'est hyper intéressant.
Ouais, mais il faut le savoir. Et si ça, ça ressort pas des... Enfin, s'il n'y a aucun indicateur dans ton texte...
Et c'est pour ça que ça me choque que tant de... Et puis des gens, enfin, lettrés, tu vois... Qui disent c'est mon roman d'amour préféré. Je dis mais d'où ?
En même temps, j'ai une amie qui a un compte Instagram, Bookstagram en l'occurrence, où elle partage ses lectures. Bisous Valentine, au passage. son livre préféré, c'est Léo de Hurlevent.
Ouais,
et
ah bah.
Elle a fait
j'adore,
un post l'autre jour en disant arrêtez de me dire que c'est une histoire d'amour. Enfin, c'est une relation toxique, il y a beaucoup de manipulation. Ça n'est pas ça de l'amour. C'est encore autre chose, certes. Il y a de l'amour de la part d'un personnage pour un autre, mais est-ce que, enfin, dans le sens où c'est pas un amour réciproque, donc tu peux pas parler d'une histoire d'amour partagée, enfin ça marche pas comme ça, et elle en a fait tout un post en s'énervant en disant arrêtez de me dire que c'est une histoire d'amour, ça n'en est pas une, et c'est vrai que c'est présenté comme tel.
Bah,
dans
il faudrait que tu m'envoies parce que ça m'intéresse beaucoup, typiquement ado, pense que j'avais la citation, c'est dans Les Hauts du Hurlevent qu'il y a un truc du style un seul être vous manque et tout est dépeuplé, mais en beaucoup mieux dit.
Du Lamartine en mieux.
Ouais, c'est ça. Et moi j'étais à fond, je disais oh waouh, Catherine, waouh, trop stylé. Et tu revois maintenant, tu te dis non, mais pas trop stylé du tout, il faut aller voir un psy, madame, ça va bien se passer.
Juste par curiosité, t'avais écouté l'épisode du Cœur sur la table de Victoire Toyon, du coup, sur les représentations culturelles des et relations et de l'amour.
Eh bah, ben, figure. Oui, attends, parce que je sais qu'il m'en manque deux.
Je pense que
mais,
dans
oui,
ce cas,
oui,
tu
oui.
l'as écouté. Parce que ça faisait plaisir de l'entendre le dire, parce que c'est un sujet que j'aborde pas mal avec mes potes. Comme dans Gossip Girl, t'as des modèles qui te sont présentés, et que tu approuves ou non le comportement des personnages. Finalement, t'es un peu une éponge aussi, surtout à l'adolescence, mais même par la suite. C'est des comportements, même si tu les approuves pas, tu vas les considérer comme normaux, comme finalement, c'est banal, ça devient banal comme situation.
Ouais.
Et tu vas aussi avoir tendance à en reproduire, même inconsciemment, notamment les personnes qui ont répondu à ton questionnaire en disant, bah voilà, pour moi, je veux bien prendre sur moi, mais pour mes amis, je les défends. Il y a un peu de ça aussi, je trouve, de j'ai intégré un schéma, il peut s'appliquer à moi, mais effectivement, quand j'ai un regard extérieur dessus et que je prends le temps d'eux, parce que c'est une personne que j'aime, en l'occurrence mon ami, je me rends compte que c'est pas admissible.
Ouais.
Et de à quel point, en fait, on intègre tout ça et à quel point, effectivement, parler de culture, dire dans les films, il n'y a pas assez de représentativité ou tel schéma, c'est pas venir se plaindre dans le vent, comme certains diraient, de venir tout critiquer et on ne peut plus rien dire. C'est simplement d'avoir conscience que peu importe ce que représente un objet culturel, il reste culturel, à savoir que tu l'intègres d'une certaine façon
bien
et qu'il est constitutif de ta société. Donc, ça passe énormément par les productions culturelles et par ceux qui les font. Ça, c'est une
parenthèse là-dessus. Ouais, toute une autre question. Mais oui, et pour moi, tu vois, le cœur vraiment du problème, c'est le concept de passion. Pour moi, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment ça.
Le fameux de l'amour à la haine.
Exactement, exactement. Et c'est ça qui nous fuck up complètement. Parce qu'il y avait des réponses dans le questionnaire d'ado. J'avais une question pourtant formulée de façon vraiment pas subtile, tu vois. C'était, est-ce que vous préférez une histoire d'amour torturée et passionnelle ou un amour simple et heureux? Parce qu'il y a un moment dans Gossip Girl où il y a cette question, plus ou moins.
Mais simple et heureux, c'est chiant, il ne se passe rien.
Exactement, exactement. Mais j'ai eu cette réponse tellement de fois. Je disais, oh, si c'est simple et heureux, on ne s'aime pas vraiment. Pour prouver l'amour, il faut s'engueuler et se réconcilier. Il faut... Il y en a une qui disait, s'il n'y a pas d'obstacle, ça veut dire qu'on ne s'aime pas vraiment. Et c'est terrible, t'as envie de dire, non, en fait, tu as le droit d'être heureux. Et si tu t'engueules tout le temps, il faut... Si la relation, elle t'apporte que des ascenseurs émotionnels, c'est pas... ça veut pas dire que c'est intense, ça veut dire que c'est douloureux, en fait.
Oh, ça me fait penser tout de suite à Andromaque.
Ouais.
Avec le côté Hermione qui va dire, ben, meurs maintenant, celui qui ne s'ennuie du tout à l'aimer, et donc on le tue, et après elle fait, ah, oups, ben, non, enfin, je voulais pas ça. Et tu dis, oui, c'est totalement démesuré, mais parce que c'est effectivement, c'est prendre une caractéristique qui est l'amour, pousser les curseurs au max, mais on reste dans de la fiction.
Ouais.
Donc, dans de la fiction, ça marche. Et même le personnage se rend compte qu'il a fait une connerie dans la fiction en question. Et on transpose ça et on te dit, mais en fait, ça, dans la vraie vie, c'est trop bien.
Tout à fait.
C'est ça le souci. Parce que dans la fiction, pourquoi pas, en vrai. Enfin, le principe de la fiction, c'est de pouvoir faire tout et n'importe quoi.
Mm-hmm.
C'est l'imaginaire. Et c'est de questionner. Et les auteurs de tragédies questionnent en permanence les sentiments de leur personnage. C'est tout le cœur du truc. C'est pour ça que... t'as une unité bon, qui a été instaurée par la suite, mais de lieu, de temps, etc., d'action, c'est parce que tout repose sur les interactions entre les personnages. Et ils sont tous, quand tu les lis, et pourtant j'adore, bah, en l'occurrence Racine, qui est vraiment un de mes auteurs de théâtre préférés, quand tu lis, tu fais waouh, tous ces personnages, ils sont pas bien, ils sont vraiment pas bien dans leur tête. Si tu t'amuses à lire que leurs répliques à eux, tu fais alors il y en a une, déjà elle parle toute seule, bien. Ensuite elle parle à son mari mort, puis elle dit toi je t'aime, puis finalement je t'aime pas, puis meurt, puis je vais me suicider, ah non en fait j'ai un fils vivant, mais tu es mon fils à la place, et tu passes une page à l'heure que tu fais, mais est-ce qu'on peut se poser 5 minutes s'il vous plaît madame, parce que là ça commence à faire beaucoup de problèmes quand même pour une seule personne.
On va prendre un petit thé, ça va
on va en discuter, ses fils viens là, on va en parler.
Ouais, bah, et tu vois je repars sur mon mémoire sur Gossip Girl, mais j'étais aussi arrivée à une conclusion qui est que donc dans la série, comme preuve de la passion et donc tous les obstacles à surmonter pour leur relation, il y a à la fois des histoires de jalousie hyper intense, des histoires d'embrouilles de couple et tout ça.
De couple, mais... et aussi d'amis, parce que ça me
voilà,
fait penser tout de suite.
Dire, voilà, et j'allais dire, et il y a aussi des trucs qui sont pour le coup moins présents dans la vie normale, entre guillemets, comme « Oh waouh, ton père est mort, mais en fait il a ressuscité !» Oh, en fait, excuse-moi, mais je dois t'abandonner car je dois gagner $1 milliard pour construire mon empire et tout. Bon, il y a peu d'adolescents en France qui sont face aux mêmes problématiques.
Surtout les dollars.
Et du coup, en fait, tout ce qui reste aux ados normaux pour vivre les affres de la passion et pour avoir des obstacles, c'est tout ce qui repose sur l'abusivité de la relation. Tu vas te dire, ah oui, mais... ah oui, mais il a été hyper jaloux, il m'a crié dessus, il m'a confisqué mon téléphone, tellement il m'aime. La jalousie comme preuve d'amour, c'est vraiment une des pires conneries qu'on véhicule. Aussi l'idée, le syndrome de l'infirmière.
Oui, bah absolument, je vais pouvoir le faire changer et oui. Je vais...
Et comme ça, j'aurais mérité son amour et on aura mérité notre bonheur tous les deux parce que je l'aurais sauvé. Tu n'as pas ton diplôme
S'il doit sauver, il va se sauver tout seul.
De psychiatrie et ouais, tout. Ou alors si tu l'as, ne sors pas avec lui parce que c'est pas très recommandé.
Et tu parlais de jalousie, c'est à ça que ça me faisait penser aussi, notamment dans Gossip Girl, mais finalement dans nos relations et nos interactions entre femmes également. C'est la rivalité féminine,
bien sûr.
Avec Blair et Serena de chaque côté, où t'as du slut-shaming en permanence, elles sont en confrontation en permanence, alors qu'elles sont censées être meilleures amies. Mm-hmm. Et vraiment, quand tu regardes la série, tu te dis, mais à quel moment vous êtes amies, en fait? Enfin, dites-moi, parce que je cherche les scènes, en fait. Je vais faire des petits screens et faire un petit montage, j'aurai 2 minutes d'amitié sur toute la série, c'est un problème. Et ça, je trouve que ça se retrouve aussi beaucoup dans notre conception de la féminité, dans la société actuelle, de monter les femmes les unes contre les autres, encore une fois, pour... l'homme en face, comme s'il n'y en avait pas assez, alors que vraiment, on a le choix. C'est pas, il n'y a pas l'homme auquel il faut se battre jusqu'à la mort, mais il y a un peu ça. Est-ce que ça, toi, c'est aussi quelque chose, déjà que tu as observé, je suppose, dans ton mémoire, et que est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as expérimenté?
Attends, ça m'énerve parce que j'ai lu ça dans un... Ah mais non, mais c'est pas du tout dans un livre, c'est encore dans Le cœur sur la table, c'est bon, ça me revient. Dans le super épisode de Devenir chèvre. Mm-hmm. Vraiment qui est incroyable.
Génial. Mais de toute façon, écoutez Le cœur sur la table, vraiment, ça vaut le coup.
Et où elle dit un truc auquel j'avais... je m'étais déjà fait la réflexion, mais là, c'était vraiment très bien expliqué. Qu'à un moment, tu regardes les autres femmes dans la rue pour te comparer et pour te placer sur un curseur, tu vois, de je suis plus ou moins grosse qu'elle, je suis plus ou moins belle qu'elle. Tu vois plus tes personnes, tu vois des morceaux. Par exemple, quand j'étais petite à la plage avec ma mère... Mmh. Elle me demandait souvent, elle me montrait des femmes, elle me disait est-ce que je suis plus ou moins grosse qu'elle. Donc ça, j'essaye d'en sortir avec le féminisme, le fait d'accepter son corps, tout ça. En plus, j'ai eu un peu ce truc, donc moi je suis bisexuelle, et j'ai eu souvent cette réflexion complètement à la con de tu sais pas des fois si une fille t'as envie, genre tu la désires, tu la trouves belle parce que t'aimerais bien être avec elle.
Ou t'aimerais être elle
et t'as la jalousie. C'est marrant qu'on parle du cœur sur la table parce que en même temps j'adore ce podcast. En même temps c'est ce qui concentre toute ma jalousie en ce moment.
Ok, bon. Bah.
Non mais comme ça me met face à mes contradictions, c'est bien. Parce que tu vois, je trouve ça trop cool qu'il y ait ce podcast qui est sur des sujets hyper importants dont relativement personne ne parle. Et en même temps... Ça m'exaspère dans le sens où moi, ça fait 3 ans que j'essaye de parler de ces sujets dans le monde de la recherche et qu'on me dit « Ah, c'est trop original. Ah non, c'est novateur, mais c'est un peu sensible.
On n'a pas les fonds, machin. » Mais parce qu'on en parle dans la sphère féministe et je pense que le podcast, tu vois, même si du coup c'est un podcast, donc ça commence à sortir d'un certain écosystème, ça reste un podcast quand même écouté à 90% par des gens déjà convaincus par les propos tenus. Ouais. Je pense qu'il y a de ça aussi. Donc ta jalousie, voilà.
Non, en plus, c'est normal, super, vraiment.
C'est que ça évolue tellement lentement de gagner chaque strate de la société avec ces idées-là. Et encore, je trouve que ça, étonnamment, même si il y a plein de choses qui me mettent en colère, je trouve que ça progresse vite.
Ouais, je pense que là, on en a bien marre.
Et je pense que là, vraiment, la cocotte minute, elle siffle depuis plusieurs années.
Ouais, ouais.
Et
on veut que ça aille vite. Mais c'est dur, ça c'est le nerf de la guerre, comme toujours, d'avoir les financements pour que ça aille encore plus vite, tu vois. En fait, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire et tellement de gens qui savent ce qu'ils pourraient faire, que ce soit dans le milieu associatif, dans le milieu de la recherche ou dans le militantisme. Il y a des gens qui ont des super idées, qui ont des super contacts avec les ados et tout, mais les institutions ne suivent pas, les financements ne suivent pas.
Ils disent que ce n'est pas la priorité, alors que interagir les uns avec les autres, c'est la base de ta société. Si tu pouvais, là, tout de suite, prendre une décision qui s'applique pour toutes les femmes dans le monde, là, immédiatement, ce serait quoi?
Ce serait d'avoir... C'est compliqué parce que tu te dis il y a tellement de choses à faire.
Mais l'avantage c'est que j'ai plein d'invités donc ça fait plein de mesures qu'on peut appliquer.
Tu sais, t'as envie de dire les trucs atroces genre sur la santé, la sécurité bien sûr. Mais si je dois rester vraiment sur ce que moi j'essaye de faire dans le monde à ma mince, ma petite échelle, ce serait d'avoir une... Alors je sais pas, une formation par des psys ou juste des potes plus informés ou juste la culture, je ne sais pas par quel moyen... mais de savoir à l'avance reconnaître les relations toxiques et de pouvoir vraiment s'épargner ça, parce que j'ai l'impression que c'est un... mais que c'est vraiment un fléau en ce moment pour mes... enfin, quasiment toutes les meufs que je connais. Et t'as beau être... t'as beau avoir lu 50 livres militants, être super informée, t'es jamais à l'abri que ça te tombe dessus, parce que c'est tellement subtil, ça joue tellement sur tes complexes, tes schémas et tout ça.
Il y a une très bonne BD de Sophie Lambda sur les relations toxiques. J'en profite pour caler ça là. Je mettrai aussi le lien, encore une fois, dans la description de ce podcast. Que de liens cette fois-ci. Merci beaucoup, Marine.
Bah, merci à toi de m'avoir accueillie.